إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve donc aujourd'hui pour continuer l'explication des courtes sourates du Coran, de sourate al-Zalzala jusqu'à sourate al-Nas. Et nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication de la sourate al-Qari'a, qui est une sourate mekwaze. Al-Qari'a, qui est traduit ici par le fracas, est un des noms du jour de la résurrection. Et il a été appelé ainsi en raison de la terreur qui régnera dans le cœur des gens ce jour-là. Et ce, lorsque l'on soufflera dans la trompe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés. Ils seront effrayés par ce son, sauf ceux qu'Allah a voulu. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Donc à ce moment-là, les gens seront terrifiés. Ils seront pris de panique en raison des frayeurs de ce jour difficile. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souligné la portée de cet événement immense en disant « Al-Qari'a, mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a » Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Tout ceci pour nous montrer que ce jour est un jour terrible, un jour très difficile. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte plus de précisions concernant ce jour et les événements qui s'y produiront. Il dit subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Pourquoi comme des papillons éparpillés? À cause de la peur et de la frayeur qu'ils vont ressentir en ce jour. Et les papillons mentionnés ici, ce sont ces insectes qui viennent la nuit, qui se heurtent les uns contre les autres, sans même savoir où ils vont. Vous avez déjà vu ces papillons de nuit? Si tu allumes un feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous se jeter dans le feu. Car ils ne savent pas réellement ce qu'ils font, ils ont une faible perception des choses. Donc ils s'entrechoquent les uns les autres, se bousculent les uns les autres, jusqu'à se jeter dans le feu. Et au jour de la résurrection, en raison de la peur et de la frayeur que les gens vont ressentir, ils seront semblables à ces papillons. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés à des sauterelles qui également se heurtent les unes les autres. Elles s'éparpillent les unes sur les autres. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens au moment où ils sortiront de leur tombe au jour de la résurrection. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Qamar, خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Donc ce qui est visé par ces comparaisons, c'est qu'en raison de leur frayeur et du fait qu'ils seront pris de panique, ils seront semblables à ces insectes, se heurtant les uns les autres et s'éparpillant les uns sur les autres. Et telle sera la situation des hommes au jour de la résurrection. Quant aux montagnes, que tu vois aujourd'hui comme étant quelque chose de ferme, de fixe, de robuste, Allah subhanahu wa ta'ala nous les décrit dans le verset suivant en disant « وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ » Et les montagnes seront comme de la laine cardée. C'est-à-dire qu'elles seront légères, comme de la laine, à tel point que le moindre souffle de vent pourrait les emporter. Puis elles deviendront ensuite comme de la poussière éparpillée, au point de ne plus être visible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans une autre sourate « وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا » Et les montagnes seront réduites en miettes, et elles deviendront poussière éparpillée. Comme on a vu dans Sourate Zalzala, la surface de la terre sera aplanie. Et à ce moment-là, les balances seront dressées. Et les gens se diviseront alors en deux groupes. Le groupe des bienheureux et le groupe des malheureux. Le groupe des bienheureux, ce sont ceux qui iront au paradis. Quant au groupe des malheureux, ce sont ceux dont la destination sera le feu de l'enfer. Et il n'y aura pas d'autre destination après ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ensuite un élément important nous permettant de savoir quelles sont les causes à accomplir pour pouvoir faire partie des bienheureux. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire celui dont les bonnes actions leur porteront sur les mauvaises, c'est-à-dire qu'il a fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Donc la balance de ses bonnes actions sera plus lourde que celle des mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ces gens-là, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il sera dans une vie agréable, c'est-à-dire dans les jardins des délices, au paradis. Et cette vie est qualifiée d'agréable, car au paradis, il n'y aura ni fatigue, ni souci, ni douleur, ni difficulté, ni tristesse, ni peur, ni chagrin, et ainsi de suite, parmi les choses que l'homme peut rencontrer dans ce bas monde. Mais les gens du paradis, ils seront épargnés de tout cela, et ils seront dans des délices éternel. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le groupe des malheureux. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Et quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire celui qui n'aura pas fait assez de bonnes actions pour que celle-ci l'emporte sur ses mauvaises actions. Ou alors, celui qui n'aura aucune bonne action, comme c'est le cas de celui qui meurt mécréant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Qu'en sera-t-il pour lui? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Sa mère est un abîme très profond. C'est-à-dire que sa demeure, sa destination, sera le feu de l'enfer. Car Al-Hawiya, qui est traduit ici par un abîme très profond, c'est un des noms de l'enfer. Et vous voyez ici que le feu a été qualifié comme étant sa mère. Sa mère est un abîme très profond. Et les savants du tafsir ont donné deux explications à cela. La première est qu'elle a été appelée sa mère, car l'enfer sera lié à lui comme la mère est liée à son enfant. Elle est toujours présente. Et ce qui est visé par cela, c'est que le châtiment du feu de l'enfer est un châtiment permanent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Inna adhabaha kana gharama. Son châtiment est permanent. Il ne s'interrompt jamais. Et la deuxième explication qu'ils ont donnée est qu'il sera jeté en enfer, la tête la première. Et ces deux explications sont justes et elles ne se contredisent pas en réalité. Et ceci est la base, au sujet du tafsir, des versets du Coran. Il peut y avoir plusieurs explications données par les salafs, que vous retrouvez dans les explications du Coran, qui sont des explications variées, mais qui ne se contredisent pas les unes les autres. C'est-à-dire, en ce qui concerne ce verset, qu'il signifie en même temps qu'il sera jeté en enfer la tête la première, mais aussi qu'il n'aura pas d'autre demeure ni d'autre destination que le feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ce feu et de cette destination, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Et qui te dira ce que c'est? Cette question, elle a pour but de te montrer l'immensité de cette chose, la gravité de la situation. Qui te dira ce qu'est cet abîme profond? Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à ce sujet en disant, نَارٌ حَامِيَهْ. C'est un feu ardent. C'est-à-dire que le feu de l'enfer, il est d'une chaleur immense, car comme il est venu dans un hadith, il est 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Donc imagine-toi juste un instant être jeté dans le feu de ce bas monde. Il n'y a pas de doute que ceci serait une chose douloureuse, une chose que nul parmi nous ne pourrait supporter. Alors que dire du feu de l'enfer? Donc ceci, c'est un rappel qui doit te faire craindre le fait de te retrouver dans ce feu. Et on rapporte qu'on allumait un feu pour le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Alors il rapprochait sa main de ce feu et il disait, Ô fils d'al-Khattab, en s'adressant à lui-même, pourrais-tu patienter sur cela? C'est-à-dire, pourrais-tu patienter sur ce feu? Il n'y a pas de doute que personne ne pourrait patienter sur ce feu. Alors il n'y a pas de doute que le feu de l'enfer est encore plus terrible. Donc le serviteur, il doit se préparer à ce jour immense qui est le jour de la résurrection. Et œuvrer afin de faire partie de ceux dont les balances seront lourdes, rempli de bonnes actions, et ce afin de pouvoir vivre une vie agréable dans un paradis éternel, et ne pas faire partie de ceux dont les balances seront légères, ceux qui n'ont pas profité de leur vie d'ici-bas pour accomplir le bien, pour prendre leur provision pour l'au-delà, mais qui viendront au jour de la résurrection avec de nombreux péchés, et qui seront alors jetés la tête la première dans une abîme très profonde du feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc comme vous le voyez, il y a dans cette sourate un avertissement contre les frayeurs du jour de la résurrection. Et le fait de te rappeler de cela, cela doit te pousser à te préparer pour ce jour. Et ce, en te soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres, en délaissant ses interdits, afin de ne quitter ce bas monde que dans une situation qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut savoir que malgré les frayeurs que ressentiront les gens ce jour-là, malgré les difficultés de ce jour, du jour de la résurrection, ce jour-là, il sera facilité pour le croyant, bi'idhnillahi ta'ala. Donc le fait de savoir cela doit te pousser à accomplir le bien ici-bas, à te rappeler que tu n'es ici que de passage, que tu ne vas pas vivre éternellement dans ce bas monde. Donc, si tu te rappelles que tu es ici pour te préparer à l'au-delà, te préparer à ce jour terrible, te préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci va te pousser à emprunter le chemin de la droiture afin de faire partie du nombre des croyants qui seront facilités et épargnés des frayeurs de ce jour-là. Également, on voit à travers cette sourate que lors du jugement, nos œuvres seront pesées, c'est-à-dire nos actions, bonnes et mauvaises. Et ceci nous rappelle ce que l'on a vu dans sourate Az-Zalzala. Quiconque accomplit un bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra, et quiconque commet un mal, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Donc le fait de te rappeler que tes œuvres seront pesées, ceci doit te pousser à multiplier les œuvres de bien, et ce afin de remplir ta balance de bonnes actions. Car comme on a dit, aucune œuvre ne sera oubliée ce jour-là, parmi les bonnes et les mauvaises actions. Tout sera pesé. Ainsi le croyant, lorsqu'il est tenté, ou poussé par son âme incitatrice au mal, à commettre un péché, il se rappelle de ce jour-là, de ce jour terrible. Il se rappelle de la pesée de ses œuvres. Pense au fait que cette mauvaise action, elle sera peut-être la cause, empêchant à ses bonnes actions de l'emporter sur les mauvaises au jour de la résurrection. Donc, ceci te rappelle à l'ordre, et t'aide à t'écarter des péchés. Et si tu les as commis, cela te pousse à te repentir. Te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface ce péché. Car celui qui se repent, il est semblable à celui qui n'a pas commis de péché, comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également, ceci te pousse à mettre en pratique cette recommandation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, et fait suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera. C'est-à-dire que, lorsque tu as eu un faux pas, lorsque tu as eu un moment de faiblesse, tu dois rapidement te rappeler à l'ordre, réformer ta situation et faire suivre cette mauvaise action par une bonne action. Car cette bonne action, elle sera la cause pour effacer ce péché, cette mauvaise action. Il est donc important pour le croyant de sans cesse multiplier les causes pour se faire pardonner ses péchés, afin de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en étant repentant et en ayant multiplié les œuvres de bien. Et ce afin que tes bonnes actions l'emportent sur les mauvaises au jour de la résurrection. On voit aussi dans cette sourate une bonne nouvelle pour les gens du paradis, qui vivront une vie agréable, une vie éternelle. Et le fait de te rappeler du paradis, cela t'aide à patienter sur les difficultés de ce bas monde. En effet, comme on a dit ici-bas, le serviteur rencontre nombre de difficultés, comme la maladie, la faiblesse, la pauvreté, la tristesse, les chagrins, et ainsi de suite parmi les choses difficiles que peut rencontrer le serviteur ici-bas. Mais si tu fais face à cela d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, en patientant sur ces difficultés, tout en te maintenant sur la voie de la droiture, en persévérant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en continuant de t'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit ta situation ici-bas. Alors, ces difficultés ne seront que des difficultés passagères. Et tu vas penser à cette vie agréable que vivront les gens du paradis. Et tu vas espérer en faire partie. Ceci va donc te pousser à multiplier une fois de plus les œuvres de bien. Car au paradis, comme on a dit, il n'y aura ni difficultés, ni tristesse, ni soucis, ni chagrin, ni pauvreté, ni maladie, et ainsi de suite. Mais les gens du paradis seront dans des délices permanents et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis. Enfin, il y a dans cette sourate une mise en garde contre le feu de l'enfer, qui, comme on a dit, est d'une chaleur ardente, une chaleur 70 fois plus ardente que le feu de ce bas monde. Donc celui dont les balances seront légères, qui n'aura pas fait assez de bonnes actions Pour faire face à ses nombreux péchés, il sera jeté dans le feu de l'enfer. Donc lorsque tu penses à commettre un péché, rappelle-toi de ce feu. Rappelle-toi de ce feu ardent, de cet abîme profond. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que je souhaite faire partie des gens du paradis ou bien des gens de l'enfer? Et il n'y a pas de doute que si je te pose cette question maintenant, tu me répondras avec certitude que tu veux faire partie des gens du paradis. Car ceci est notre souhait à tous. Toutefois, afin que notre espoir soit véridique, on se doit de l'accompagner des œuvres menant au paradis. Il ne suffit pas de dire je souhaite faire partie des gens du paradis et je ne veux pas faire partie des gens du feu de l'enfer. Ceci est une belle parole. Toutefois, cette parole, elle doit être accompagnée des actes menant au paradis et préservant du feu de l'enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les délices du paradis, les châtiments du feu de l'enfer, mais il nous a aussi décrit dans son livre la voie empruntée pour faire partie des gens du paradis et la voie de laquelle on doit s'écarter afin de ne pas faire partie des gens de l'enfer. Donc de ton vivant, tu as le choix. C'est à toi de choisir la voie que tu souhaites emprunter. Ou bien la voie des gens du paradis, ou bien la voie des gens du feu de l'enfer. Quant au jour de la résurrection, alors cela sera trop tard, car tu seras jugé en fonction de tes œuvres et en fonction de cela, les gens iront soit au paradis et soit en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis et de nous préserver du châtiment du feu de l'enfer. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain l'explication de Surat At-Takathur, la course aux richesses, bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم